Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Aujourd'hui, c'est Radio Phoenix à Caen qui prend l'antenne pour l'Univox de la semaine. Du 30 janvier au 2 février, à Brest, s'est tenue la 21e édition de Longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute. Au programme, des conférences, des rencontres, des enregistrements d'émissions ou de podcasts, tout ça en public. Cette année, un des temps forts de ce festival a été la rencontre entre Inès Leroux, enquêtrice indépendante en zone rurale et autrice de la BD Algues vertes, l'histoire interdite, avec Nicolas Legendre, journaliste indépendant qui a reçu le prix Albert Londres pour son ouvrage Silence dans les champs, paru en 2023. Ensemble, et devant un public attentif, ils ont parlé du processus d'enquête parfois difficile sur le système agro-industriel breton. Après cette rencontre, nous nous sommes entretenus avec Inès Leroux. À notre micro, elle est revenue sur son parcours de journaliste et sur son travail en Bretagne. Un travail qui a ouvert la voie à de nombreux journalistes spécialisés sur des questions d'écologie et d'agriculture.
Univox.
Inès Leroux, tu as grandi à Saumur,
oui,
en Maine-et-Loire, puis tu es devenue journaliste et tu as travaillé à Paris pour Radio France. À ce moment-là, Inès, tu as envie d'aller tendre le micro aux paysans bretons. Et tu pars faire une série documentaire qui s'appelle Journal Breton.
Journal Breton, la fabrique du silence.
Qu'est-ce qui t'a poussé à aller rencontrer les paysans et paysannes bretons et bretonnes ?
Ouh là là, c'est une longue histoire. Mais en gros, je me suis intéressée à partir de la vingtaine environ aux problématiques de santé environnementale, aux expositions chimiques à faible dose mais quotidiennes. Un sujet qui était assez méconnu à l'époque. Et je me suis beaucoup intéressée aux ouvriers qui travaillaient dans les usines chimiques, aux ouvriers de l'amiante, aux ouvriers du nucléaire, aux ouvriers qui fabriquaient de l'aliment pour les animaux en batterie, etc. Et puis je fréquentais beaucoup un cabinet d'avocats qui s'appelle TTLA à Paris, et c'est qui défendait généralement tous ces ouvriers malades. Et c'est lui un jour qui m'a dit: tu devrais aller voir du côté des agriculteurs exposés aux pesticides. Et c'est comme ça que j'ai fini par atterrir en Bretagne en 2015.
Pendant plusieurs mois, tu es sur place, tu tends le micro et puis finalement, tu fais face à une industrie qui n'est pas du tout rodée pour la communication. Tu mets le doigt sur un point sensible. Comment est-ce que tu l'as vu évoluer, cette communication au sein de l'agro-industrie bretonne, à partir de 2015 ?
Là, ce que tu dis, c'est un peu ma collègue Morgane Large qui dit ça et qui a l'impression que la parole des agriculteurs n'est plus spontanée. Moi, j'ai pas tout à fait la même perception du terrain. En effet, j'ai senti que il y avait la communication de l'industrie agroalimentaire se transformait énormément au fil de mes enquêtes. Au départ, j'enquêtais sur la première coopérative agricole bretonne qui s'appelle Triskalia et c'était une enceinte, une forteresse impénétrable. J'ai dû user de ruses pour pouvoir obtenir des interviews. Suite à mes émissions pour France Inter et France Culture, Triskalia a envoyé des lettres à mes employeurs déplorant un peu un travail qui aurait été à charge selon eux. Ensuite, je sais qu'ils ont embauché 5 personnes à la communication selon des gens qui connaissaient déjà du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Et ensuite, ils ont vraiment commencé à exercer une forme de harcèlement sur les réseaux sociaux, sur moi, à dénigrer mon travail, sachant que sur leur page Facebook, Twitter, ils ont des milliers d'abonnés agriculteurs. Donc j'avais l'impression que ça me mettait en danger, parce qu'ils dénigraient vraiment. Ils disaient que je m'attaque aux agriculteurs, ce qui est complètement faux quand on lit mon travail. Et je m'attaque plutôt aux industriels qui exploitent ces agriculteurs. Et ils diffusaient mon image, etc. Mais du côté du terrain, du côté des agriculteurs eux-mêmes, etc., j'ai l'impression que chaque publication a fait que j'ai pu accéder à une parole vraie et à des informations de plus en plus fournies au fur et à mesure des années. Enfin, plus je publie, plus c'est facile, en fait, d'accéder à des sources, quoi.
Et donc tu l'as dit que tu t'es toujours intéressé aux travailleurs exposés à des conditions dangereuses, mais qu'est-ce qui a fait que en Bretagne tu as eu envie d'y rester et de continuer cette enquête?
En fait quand j'ai atterri je suis allée dans la maison d'amis qui était leur résidence secondaire ou une maison de famille où ils allaient que de temps en temps, donc j'ai pu l'occuper quand ils étaient pas là à leur période d'absence, et j'ai atterri dans un endroit où, enfin voilà, c'était l'occasion qui faisait le larron. J'avais pas choisi d'être sur la commune de Melpestivien. C'était vraiment une opportunité pour moi. Je connaissais rien à ce territoire qui est le centre-Bretagne. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui font que, au début, je pensais rester quelques semaines et maintenant, je suis depuis 10 ans, j'ai une maison ici, j'y vis, etc. D'une part, c'est parce que c'est un territoire, il y a très peu de journalistes qui enquêtent, donc il y avait un très fort besoin en fait d'enquête, surtout sur un territoire comme ça sous emprise agroalimentaire. Et finalement, les gens m'ont vraiment fait sentir au fur et à mesure du temps que j'étais nécessaire, que je faisais un travail utile en fait. J'ai senti une utilité, c'est la première fois que ça m'arrivait en fait dans ma carrière de journaliste. Sinon, j'avais l'impression de diffuser des informations qui se volatilisaient, qui servaient à rien. Et là, d'être sur un terrain d'enquête et que de vivre au milieu de mes témoins, ça m'a mis, en même temps, ça a dévoré ma vie, parce que du coup, même quand j'allais faire mes courses ou que je me promenais, je me retrouvais avec des gens qui venaient témoigner, m'apporter des éléments. Mais en même temps, ça a donné beaucoup de sens à mon existence et j'ai pas eu envie de partir. Et puis en plus, depuis Paris, je voyais vraiment la Bretagne comme un bloc monolithique ravagé par l'industrie agroalimentaire, alors qu'en y habitant, j'ai vu à quel point aussi, du coup, il y avait beaucoup de contre-pouvoirs, beaucoup d'agriculture alternative, etc. Et ça, c'était super aussi à découvrir sur place. Et en fait, ce territoire, il est très vivant. Enfin, quand on n'y vit pas, on peut croire. Les gens me disent, mais tu fais quoi dans ton bled à Melpestivien? La moyenne d'âge, c'était peut-être 75 ans. Il n'y a rien. C'est un peu sinistré. Et tout le monde me disait, mais c'est quoi ta vie? Alors qu'en fait, il y a une vie sociale très riche. Il y a beaucoup de solidarité. Il y a des petites communes autour qui se bougent pour ouvrir des librairies, des cinémas. Enfin, voilà, il y a plein de fest-noz, de soirées crêpes. Enfin, je suis très occupée, quoi.
Tu parlais de besoin de recueillir la parole. Comment est-ce qu'on accueille une voix qui, justement, n'a pas l'habitude de s'élever, de se faire écouter, justement?
Ouais. Ça, c'est vraiment un travail commun entre la personne enregistrée et moi. C'est un tâtonnement où j'ai fait plein de tentatives avec plein de gens et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit des toutes petites choses. Je pouvais pas en faire une émission de radio, voire ils voulaient même pas du tout que je les diffuse, mais ils disaient une petite chose et puis en fait j'allais voir une autre et j'étais déjà outillée, riche de cette petite chose que je savais, et du coup je pouvais rebondir différemment avec une deuxième personne qui me disait une autre petite chose, puis enfin voilà. Et en fait à un moment ça fait boule de neige et je dis il y a des gens qui m'ont dit ça, puis il y a des gens qui m'ont dit ça, et puis les personnes interviewées, ça les fait réfléchir sur leur propre expérience, et c'est une espèce de... Je servais un peu d'intermédiaire, quoi. Je faisais circuler des infos de manière toute petite au début, et puis en fait ça faisait comme des effets miroirs partout où les gens ils me donnaient, enfin ce que disaient les autres ça les faisait réfléchir eux-mêmes, eux ils auraient pas vu les choses comme ça, et finalement au bout d'un moment tous ensemble on a créé un propos, une pensée, enfin tu vois, mais les uns sans les autres, on n'aurait pas réussi, quoi. Il n'y avait personne qui la détenait totalement. Il a fallu vraiment la créer et ça a pris du temps. Ouais.
Et le fait de libérer une parole, justement, est-ce que ça a créé aussi une libération de l'écoute au sein de cette population, de ce territoire?
En tout cas, de libérer cette parole, on va dire, cette connaissance, parce qu'en fait, les gens avaient cette connaissance, mais ils s'étaient habitués à vivre dans un terrain où il y avait beaucoup de menaces, une ambiance un peu anxiogène parce que l'agroalimentaire a beaucoup de poids et peut exercer des représailles. Ils s'étaient habitués à ça, ils s'étaient habitués à se taire. Mais ils avaient ces connaissances, mais ouais, c'est comme s'ils n'y avaient plus accès. Donc ça... Et du coup, de libérer... en fait, qu'ils se mettent à partager leur expérience, ça a créé beaucoup d'obligations pour moi, d'obligations morales parce qu'ils se mettaient en danger. Et donc, j'ai été obligée de travailler complètement différemment, de leur faire réécouter ou relire tout avant publication pour être sûre qu'ils étaient parfaitement anonymisés ou que je respectais parfaitement leurs paroles. Et déjà, de ce processus-là de faire relire ou réécouter, ça a transformé mon travail parce qu'en fait, je me suis aperçue que c'était un moment très précieux où ils leur revenaient ils repensaient à de nouvelles choses parfois cruciales, en fait. Et ça me permet d'ajouter, en fait, des phrases... dans mes sujets et de faire des choses plus complètes, plus approfondies. D'ailleurs, enfin moi, c'est vraiment mon conseil aux journalistes, c'est que souvent on a l'impression que faire relire, ça va créer de la, enfin une forme de que le témoin va pouvoir censurer notre travail, couper des phrases, alors que en fait c'est vraiment l'inverse que j'ai vécu. Ça, c'était une forme d'approfondissement et ça crée une confiance importante en fait qui permet de continuer à enquêter sur un terrain. Et effectivement, en fait, au tout début, les premiers témoins qui ont été diffusés, par exemple des malades des pesticides, etc., ils disaient que ces diffusions, ça crée une écoute complètement différente de leur entourage, parce qu'avant, ils n'étaient pas forcément crus, comme le lien entre cancer et pesticides n'était pas toujours bien reconnu par la médecine, etc. Et que en fait, d'être diffusé dans une émission de radio, que leur parole soit d'une certaine façon officialisée, ça leur permettait une certaine assise dans leur entourage, même proche, même dans leur couple, etc. Et pour eux, c'était vraiment... Enfin, que leur expérience, elle acquérait un statut différent. Et ça, c'était vraiment, vraiment important pour eux. Et puis, petit à petit, ça a vraiment permis de libérer que des témoins écoutent d'autres témoins parler à la radio. Ça a permis de libérer d'autres témoignages.
Univox.
Cette série radio, elle s'est transformée finalement en un travail beaucoup plus long et personnel. En 2019, tu as sorti la bande dessinée Algue verte, l'histoire interdite avec Pierre Van Hove. Fin d'année 2024, tu as sorti un deuxième volume qui s'appelle Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement. Est-ce que toutes les personnes que tu as interrogées, que tu as rencontrées depuis, que tu rencontres depuis 10 ans, ont conscience aujourd'hui d'avoir fait émerger un nouveau récit collectif?
Non, j'ai l'impression que vraiment, en tout cas, le Centre-Bretagne où je vis, c'est un territoire très humble. Enfin, je suis vraiment toujours surprise par l'humilité des gens, la grande intégrité, la grande sincérité, et je trouve qu'ils n'arrêtent pas de me remercier, vraiment. Enfin, tout le temps, j'ai énormément de remerciements et d'encouragements, et je trouve ça fou qu'ils ne voient pas que c'est moi qui devrais les remercier. Enfin, tout vient d'eux, en fait. Moi, je ne connaissais rien. Enfin, j'ai pas pu. Enfin, voilà, j'ai fait que, en fait, recouper, recueillir, faire circuler. Et en effet, enfin. Mais aussi, la médiatisation fait ça. Fait que je suis mise en avant dans. La BD Algue verte, elle a été adaptée au cinéma. Ils ont mis le personnage principal, c'est une journaliste. Et du coup, j'étais au scénario et j'ai insisté vraiment pour qu'il y ait des personnages secondaires importants, parce que c'était vraiment le cas, en fait. C'est impressionnant le nombre de relais, que ce soit une femme qui tenait un bar, des agriculteurs, des riverains de toutes sortes, ce collectif qui s'est formé, ouais. Mais c'est pas assez dit et vu encore.
Dans ce film, justement, à la fin, à la dernière scène, on voit des figurants apparaître. Et dans ces figurants, il y a par exemple Morgane Large, mais la vraie journaliste, cette fois-ci, qui apparaît en tant que figurante dans ce film. Comment elle s'est fait, cette rencontre avec Morgane Large en Bretagne?
Oui, je parlais de quelqu'un qui tenait un bar, d'agriculteur, et il y a notamment des journalistes de la presse locale qui ont été essentiels aussi dans mon travail. Et tout particulièrement Morgane Large, elle s'est faite tardivement. En fait, on vivait côte à côte quasiment avec Morgane, à quelques kilomètres d'écart, pendant des années, sans se connaître. C'est assez fou, sans se parler. Enfin, moi, je savais même pas qu'elle existait, en fait. Et un jour, c'est une association environnementale locale qui avait lutté contre l'extension d'une porcherie à Trébrivent dans les Côtes d'Armor, qui m'a invité à écouter, qui m'a invité à présenter des émissions de radio que j'avais faites sur les algues vertes en public. Et elle a demandé à Morgane d'animer cette rencontre. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Et ça a été pour moi un coup de cœur immédiat. Enfin, j'avais l'impression un peu de rencontrer une sorte de double. Genre, on venait pas. Enfin, on avait plein de points communs. On avait le même ordi. On était gauchères. On avait une grand-mère manouche toutes les deux. Tout était très étonnant. Et on travaillait sur les mêmes sujets, quoi. Et à partir de là, on n'a pas arrêté de collaborer, et le journaliste Daniel Mermet, il a dit de nous, et à juste titre, il disait « Ah oui, vous faites le duo parfait, parce que le journaliste local sait tout mais ne peut rien dire, et le journaliste national sait rien et peut tout dire. » Et du coup, l'un sans l'autre, ça peut pas marcher, quoi.
Et aujourd'hui, quelle relation tu entretiens avec Morgane, parce qu'elle a été victime plusieurs fois d'intimidation? Comment, lors de ces moments, vous échangez et qu'est-ce que la relation, comment est-ce qu'elle a perduré?
Bah, en fait, depuis, avec Morgane, on a formé un collectif de journalistes femmes enquêtant sur les questions agricoles et agroalimentaires et victimes de pressions et de menaces. Et on se réunit 2 fois par an. La première fois, ça a eu lieu chez moi. Voilà, c'était un moment très fort où bah, Morgane avait subi des violences, mais aussi Hélène Servelle, une journaliste dans le sud-est de la France qui enquête sur le maraîchage intensif. Et on a aussi cherché des solutions d'hébergement pour Morgane parce qu'elle était intimidée, y compris chez elle. Il y a eu aussi un collectif de soutien qui avait été créé pour moi quand j'ai eu des procès en diffamation. Et du coup, il s'est élargi pour soutenir Morgane. Quand elle-même, elle a eu... ces intimidations, notamment ces déboulonnages de roues, et tout l'argent dont moi j'avais pas eu besoin, parce que les gens donnaient de l'argent, mais j'avais absolument pas besoin d'argent quand j'ai eu mon procès en diffamation, parce que mes rédactions m'accompagnaient financièrement, enfin, payer les frais d'avocat. Bah, tout l'argent réuni a permis de payer les frais de justice de Morgane pour se défendre, enfin, pour déposer plainte contre X suite au déboulonnage de roues.
Algue verte, l'histoire interdite, elle a également été adaptée en BD concert par des musiciens Mnémotechnique et François Joncourt. Ce sont des personnes que tu as rencontrées. Toi, t'as pensé quoi quand on t'a proposé cette adaptation scénique?
Bah, quand on m'a proposé, j'avoue que j'en revenais pas. Je trouvais ça génial. Ensuite, Arnaud m'a proposé de lire, d'enregistrer des textes. Et puis, il m'a aussi demandé s'il pouvait utiliser des extraits de mon journal breton, la série diffusée sur France Culture. Et il m'a envoyé, en fait, les extraits sur papier. Et je trouvais que tous les extraits étaient super bien choisis. Et puis après, quand j'ai vu les textes qu'il me demandait de lire et tout ça, je me suis dit qu'ils étaient vraiment au bon endroit, quoi. Qu'ils avaient super bien saisi, en fait, les détails importants et très parlants de toute cette enquête. Et ça m'a convaincue complètement du projet parce qu'en fait, en général, moi, je trouve que le travail le plus émouvant que j'ai fait et le plus long, c'est le journal breton. C'est ce travail radio qui a pris des années, qui va devenir le terreau de tout le reste, de toutes les BD et tout ça. Mais tout prend racine là. Ça a été un travail éprouvant, long. Il fallait convaincre ma rédaction France Culture, c'était pas facile. Et je trouve que des fois, il est trop oublié parce que en fait, les BD, le film et tout ça ont pris un peu toute la lumière. Et du coup, qu'ils mettent ça en avant dans le BD concert, j'ai trouvé qu'ils avaient saisi qu'ils avaient saisi l'importance de cette matière. Et puis après, quand je l'ai vu, que j'ai vu les images agrandies des dessins de Pierre Vanhoff, déjà, j'en revenais pas parce que j'avais pas conscience que les dessins de Pierre étaient aussi bons. Ils supportent vraiment énormément l'agrandissement. On voit tous les détails et ça devient génial. Et puis sur cette musique, j'ai trouvé qu'il y avait une force dénonciatrice que j'ai vue, enfin, une puissance qui est plus présente encore que dans la BD et plus présente que dans le film Les Algues Vertes. Enfin, j'ai trouvé qu'on ressortait vraiment de là, vraiment en rage, avec une envie de se mobiliser, et j'étais impressionnée par cette puissance.
Et je crois que toutes les salles bretonnes n'ont pas accepté de recevoir le spectacle chez elles. En revanche, ils font une belle tournée de France. Et j'avais un retour de leur part. Ils disaient que à chaque endroit où ils allaient jouer, le public venait les voir et leur racontait leur histoire propre à leur territoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué toi aussi dans ton travail de promotion de tes bandes dessinées? Tu as l'impression que chaque territoire a sa propre histoire, comme ça, comme avec l'agro-industrie en Bretagne?
J'ai des témoignages forts, mais vraiment des témoignages plutôt des gens qui me parlent de leur lien avec l'agriculture, de leur lien avec leur famille. Beaucoup de gens de la famille qui travaillent dans l'agriculture. Des gens qui me parlent de pourquoi cette BD les a touchés, leur a donné envie de se battre. Mais en fait, j'ai pas l'expérience de Mnémotechnique et Le Point sur des gens qui relatent l'histoire de leur territoire. Je trouve ça intéressant que ça suscite ça.
Dans la bande dessinée justement sur le remembrement, Léandre Mandard, qui est donc un étudiant qui fait une thèse sur ce sujet et qui t'a accompagné dans ce travail, dit que le remembrement, ça a été en fait adapter les paysages au tracteur. Est-ce que tu penses que le paysage pourra un jour se réadapter à toutes ces réflexions qui émergent?
Je trouve que c'est vraiment une des phrases les plus fortes de l'album, ouais, que cette phrase, le remembrement, ça a été en fait l'adaptation des paysages au tracteur. Et est-ce que le paysage pourra se réadapter
aux réflexions qui émergent de ces travaux?
Moi, je pense vraiment qu'en s'auto-organisant sur des territoires à petite échelle, on pourrait remettre en place une paysannerie qui travaille avec du bocage. Parce que c'est crucial, en fait, de pouvoir, pour notre autosuffisance alimentaire, pour pouvoir avoir un maillage paysan dense. Et paysans, pourquoi ? Parce que les paysans, ils travaillent avec les arbres et du coup, les arbres, c'est très vertueux pour le climat. Surtout, en fait, une forêt linéaire comme le bocage, c'est vraiment très, très riche pour la biodiversité. Beaucoup plus qu'une forêt en masse. La forêt linéaire, c'est ce qu'il y a vraiment de plus favorable à la biodiversité. Et favorable au climat, enfin, favorable aux animaux d'élevage, d'élevage en plein air. Oui, je pense que c'est vraiment facile. Enfin, c'est pas facile du tout, mais que c'est vraiment possible et qu'il y a plein d'expériences qui le montrent. Mais malheureusement, des expériences donc à des petites échelles, mais malheureusement à une plus grande échelle, à l'échelle nationale, les pouvoirs publics soutiennent encore trop à travers plein d'infrastructures comme la SAFER, et puis à travers aussi la PAC. À l'échelle européenne, soutiennent trop les grandes fermes et l'agrandissement qui sont très toxiques pour les sols, pour le climat, qui font que les arbres sont arasés encore et les haies trop massivement.
Merci beaucoup, Inès Leroux.
Merci à vous.
C'était Radio Phoenix pour Univox. Vous avez écouté une interview d'Inès Leroux, journaliste et enquêtrice indépendante sur les questions écologiques et agro-industrielles en Bretagne. Pour en apprendre plus, vous pouvez lire ses ouvrages « Algues vertes, l'histoire interdite » et « Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement ».